Je vous invite directement à la prière et je vous salue dans le nom du Seigneur et vous souhaite la bienvenue. Père éternel, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi, nous voulons nous mettre à tes pieds, nous voulons nous mettre à côté de toi pour entendre ce que tu as à nous dire, pour entendre vraiment ta voix, mais surtout entendre et sentir ton amour, l'amour que tu as eu pour nous, en allant jusqu'au bout. Merci parce que, encore une fois, tu nous as précédés, encore une fois, tu es là au milieu de nous, pour que nous puissions nous réjouir en toi et te louer, parce que tu es tout, et tu t'es occupé de nous, qui n'y étions rien. Merci encore parce que tu es le Tout-Puissant, et que vraiment, vraiment, tu nous aimes autant que tu n'es puissant. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à chanter ce chant, j'entre dans tes portes avec des louanges. Quel chant merveilleux pour un culte dit de rentrée. Il est évident qu'à notre âge respectif et respectable, il n'est pas question de rentrée scolaire, évidemment. Mais nous avons voulu intituler ce moment comme pour nous rappeler qu'il ne faut pas se relâcher pendant les vacances, même quand on est en vacances toute l'année. Nous avons décidé en consistoire que ce culte serait un peu différent. Et pour ceux... La plupart des intervenants de culte qui interviennent dans cette église, nous avons la chance et la joie et la grâce plutôt d'avoir pas mal de prédicateurs. Et nous avons donné la délicate mission à chaque prédicateur qui intervient d'un sujet de 10 minutes max, qui peut dépasser parfois, mais de partager sur le thème « Quel avenir pour l'église ?» avec un grand « E » et pour nous, en cette nouvelle année académique. Quel avenir pour l'Église ? Avec un grand E et un petit E, évidemment, aussi. Évidemment, outre s'occuper de la vie courante, les enfants, les petits-enfants, pour ceux qui en ont, pour d'autres, c'est les activités qui nous maintiennent, que nous proposons quand même de revoir notre vie d'Église. Église avec un grand E, Église avec un petit E. Avant de nous plonger dans ce partage, il n'y aura pas de louange, vu que nous sommes quand même six. Il y a quand même six intervenants. Vous imaginez, une demi-heure chacun. Non, c'est ça qu'on a limité un peu à 10 minutes. Il n'y aura pas non plus de Sainte-Seine, justement pour nous concentrer justement sur ce thème et sur ce que le Seigneur veut nous dire. Et je vous invite à chanter ce chant d'abord ensemble. Ensemble, nous pouvons prier. Ensemble, nous pouvons chanter. Chaque intervention sera suivie d'une strophe de cantique. J'invite mon frère Guy à prendre la parole.
Bien voilà, mes amis, c'est moi qui me lance dans le sujet. Quel avenir pour l'Église et pour nous en cette nouvelle année académique? Waouh, vaste sujet. Merci à Daniel d'avoir posé cette question intéressante. Je dirais même plus, merci à Daniel d'avoir posé cette question interpellante. Derrière cette question se cache la question suivante. Qu'en est-il de la pérennité de notre communauté? La plupart d'entre nous sommes des personnes âgées. Après notre mort, lequel d'entre nous mettra la clé sous le paillasson? Telle est la question subsidiaire. Pour illustrer le sujet, je vous propose une courte lecture dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13, versets 20 et 21. Jésus dit encore « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu ? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Dans les 27 traductions que j'ai été voir, et j'ai un site qui me facilite la tâche, eh bien, le royaume de Dieu est soit écrit avec un R majuscule, soit écrit avec un R minuscule. Parfois, la traduction est un peu différente et elle donne ceci. À quoi comparerai-je le règne de Dieu? Ces deux expressions, le royaume de Dieu et le règne de Dieu, traduisent à mon sens deux réalités différentes. La première réalité, le royaume de Dieu, serait plutôt une réalité spatiale, une réalité invisible. C'est ainsi que l'astronaute Yuri Gagarine dira « Je suis allé dans l'espace, mais je n'ai pas rencontré Dieu. Je n'ai rencontré rien d'autre que des étoiles. » Dommage pour lui parce que, même s'il ne l'a pas rencontré, Dieu règne comme seul maître absolu dans le royaume des cieux. La seconde réalité, le règne de Dieu, serait plutôt une réalité temporelle pour notre temps, pour notre époque, sur cette terre, ici, maintenant. Alors, je m'explique. Il y a dans cette parabole plusieurs intervenants. Le premier et le plus important des intervenants, c'est Dieu. Dieu et son royaume. Afin d'atteindre l'expansion de son royaume, l'homme a aussi toute son importance et il vient juste après Dieu. Et lorsque je dis l'homme, je devrais plutôt dire la femme, une ménagère. Une ménagère et ses mains, c'est-à-dire le travail qu'elle accomplit. Ensuite, il est fait mention de farine et de levain. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine, dira Claude Nougaro. Bien étrange combinaison que voilà. Quel avenir pour l'Église et pour nous en cette nouvelle année académique? Pendant ces quelques minutes qu'il me reste, je m'attarderai principalement sur la réalité temporelle, donc sur le règne de Dieu. Le règne de Dieu dans nos cœurs et par extension, le règne de Dieu sur cette terre. Alors, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, l'un ne va pas sans l'autre. Dieu ne peut pas régner sur cette terre s'il ne règne pas tout d'abord dans nos cœurs. Alors permettez-moi de poser quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre. Comment Dieu pourrait-il régner et étendre son règne terrestre s'il ne règne pas dans le cœur du chrétien? Pourquoi nos églises se vident-elles? A-t-on seulement envie de passer la porte de nos églises? Croyez-vous que nos églises soient un modèle pour les gens du monde? Lorsque l'on parle du règne de Dieu sur cette terre, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un chant que nous connaissons bien. « Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. » Le règne de Dieu dans le cœur de l'homme, dans le cœur du chrétien. Si nous voulons que Dieu règne sur cette terre et que ce règne soit en expansion, c'est-à-dire qu'il grandisse, qu'il croisse, tel le levain dans la farine, qu'il donne du volume à toute la pâte, si c'est ce que nous voulons, alors il faut premièrement que Dieu règne dans nos cœurs. Comment voulons-nous attirer, et je mets le mot attirer entre guillemets, comment voulons-nous attirer des non-croyants si nous ne vivons pas mieux qu'eux? Et parfois même si nous vivons moins bien qu'eux. Quelle est la réalité? Pas une semaine sans lire dans la presse qu'un homme de Dieu se livre à la pédophilie. Ah, vous me direz, ah ben ça c'est pas chez nous. Encore heureux, c'est pas chez nous, ça c'est chez les catholiques. J'ai envie de dire pas si vite. Pas si vite, ne crions pas victoire, chez nous ce n'est guère mieux, puisque certains pasteurs protestants se marient entre eux, homme avec homme, femme avec femme. L'apôtre Paul dira aux Romains au chapitre 1, verset 32, « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Après de tels agissements, comment voulez-vous encore croire à la parole de Dieu qui transforme le chrétien à l'image du Christ? Alors vous me direz, oh, dans nos églises, il n'y a quand même pas que des curés et que des pasteurs. Vous me direz, il y a aussi des chrétiens. Parlons-en des chrétiens. Les chrétiens se disputent, ils s'injurient. Il n'y a pas de réel amour, pas de réelle affection fraternelle les uns envers les autres. Lors des assemblées générales, dans les consistoires, il n'est pas rare de voir des frères s'empoigner verbalement et encore heureux s'ils n'en viennent pas aux mains. Heureusement, gloire à Dieu, il n'en va pas de même dans notre assemblée. Que Dieu nous préserve de tels débordements. Bien triste constat que tout cela. Alors comment voulez-vous que nos assemblées s'épanouissent, qu'elles prennent du volume, de l'ampleur? Faisons-nous envie ou bien pitié? Alors je ne sais pas si vous connaissez la rockstar Bono. Bono est le chanteur du groupe U2. Et Bono, pour ceux qui l'ignorent, est un chrétien engagé. Et un jour il a dit ceci, il est difficile de supporter les chrétiens. Je me demande comment Jésus fait. » Fin de citation. Tout à fait dernièrement, je vous ai cité cette phrase, un évangéliste, Anton Schultz, a dit un jour, « Les murs de nos assemblées sont devenus si minces, ils sont devenus si transparents qu'ils ne nous séparent plus de rien. Nous sommes en train de nous adapter au monde. » Alors, ne cherchons pas plus loin. Pourquoi le monde voudrait-il passer la porte de nos églises? Pourquoi voudrait-il passer les murs, puisqu'ils sont transparents et qu'on y voit au travers? Et ce que l'on y voit n'est pas toujours joli, joli. Et si seulement, mes amis, bien-aimés frères et sœurs, je frémis à l'idée. Si seulement le chrétien veillait à sa sanctification, sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu, tout serait alors différent. Oui, tout serait différent. Alors je ne juge personne, évidemment. Toutes les questions que je pose et les commentaires que j'y apporte, je me les suis posées à moi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais revenons à la parabole. Le levain est souvent considéré dans la Bible comme un élément négatif, ce qui n'est pas le cas ici dans cette parabole. Alors je vous donne un exemple de levain négatif. La Pâque juive est suivie directement, sans interruption aucune, par la fête des pains sans levain. Lors de cette période, tout levain doit être proscrit. Et je lis dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, versets 15 et suivants, « Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Dès le premier jour, il ne doit plus y avoir de levain dans vos maisons. Si du 1er au 7e jour, quelqu'un mange du pain levé, il sera exclu du peuple d'Israël. » Le levain est considéré par Dieu comme impropre à la consommation pendant toute la durée de la fête. Pourquoi? Parce que le levain représente le péché. Paul, s'adressant aux Corinthiens, dit ceci, « vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, c'est-à-dire sous-entendu sans péché. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Ici, dans la parabole que nous avons lue, le levain évoque plutôt le dynamisme du règne de Dieu, capable, à tout le moins, c'est ce que j'espère, capable de transformer cette humanité et de l'amener au pied de la croix du Christ. Alors, comme vous le savez, ou peut-être ne le savez-vous pas, mais depuis de nombreuses années, je fais mon pain. Cependant, il y a seulement quelques mois que je le fais avec du levain. Ce levain m'a été offert par mon ami André-Marie, que je salue au passage, puisqu'il n'est pas là, mais je sais qu'il va écouter la prédication lorsqu'elle sera mise sur le site. Après avoir ajouté le levain dans la farine, quelles sont mes attentes ? La pâte va-t-elle lever ou pas ? Prendra-t-elle du volume ou pas ? Va-t-elle croître ? Le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Ce sont là les attentes du Seigneur Jésus. Le royaume de Dieu croît, du verbe croître. Et c'est ainsi que chaque jour, de nouvelles personnes se convertissent au christianisme et rejoignent de nouvelles assemblées. Savez-vous qu'il y a une église protestante évangélique qui se construit tous les 10 jours en France ? Incroyable, hein ? C'est une statistique que j'ai lue dans un journal chrétien. Maintenant, venons-en à la question subsidiaire qui est celle-ci. Qu'en est-il de la pérennité de notre communauté ? Nous, chrétiens évangéliques, nous croyons que plus une église locale est bénie, et au plus, il y a de chrétiens dans l'Assemblée. Alors qu'en fait, le nombre de chrétiens n'a pas tellement d'importance. Dieu voit la qualité. Il voit la qualité du chrétien et non la quantité de chrétiens. Alors, surtout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi aussi, je voudrais que nous soyons plus nombreux dans cette Assemblée. Quelle joie d'avoir accueilli nos frères et sœurs de l'Assemblée de Fléron. C'était un réel plaisir de voir de nouveaux chrétiens dans cette Assemblée. Moi aussi, je voudrais que nous soyons plus nombreux à tel point qu'il faille changer de locaux. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, toute confession confondue, catholiques, orthodoxes, protestants de tous bords, il y a plus de personnes vivantes qui se disent chrétiens que le total des chrétiens ayant vécu depuis le début du christianisme. Nous sommes 2,6 milliards de chrétiens de par le monde. Et j'ai envie de dire, et ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas. Un tiers de la population mondiale se dit chrétien. Et ça ne se voit pas. Ça, mes amis, c'est la quantité. Mais quelle est la qualité ? Vers la fin de son ministère public, Jésus a posé cette question. Lorsque le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il non pas un nombre important de chrétiens de nom ? Non, non. Trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Luc chapitre 18, verset 8. Et lorsque je vois ce qui se passe dans les églises à l'heure actuelle, je doute fort que ce soit le cas. Alors je termine. Avec Jean-Baptiste, ne devrions-nous pas dire « il faut qu'il croisse et que je diminue ». L'influence dans nos vies, l'influence de Jésus doit croître. Elle doit être visible à l'œil nu. Le monde doit voir que nous sommes différents, que nous sommes enfants de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Demandons à Dieu de régner premièrement dans nos cœurs. Ensuite, et je pense que c'est le souhait de chacun d'entre nous, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Et finalement, le Seigneur et son Saint-Esprit fera croître notre assemblée en qualité. En qualité. Amen. Nous allons chanter « Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, viens régner dans nos cœurs maintenant, telle est notre prière. » Merci Guy pour ce magnifique témoignage et je vais embrayer là-dessus. Voilà mes bien-aimés quelques années que nous connaissons. Je voudrais par ce courbier vous partager une vision de l'enseignement de Jésus dont le sujet est l'amour fraternel. En intitulant mon message « L'amitié et l'amour fraternel, où est la différence ?» Nous lirons ensemble dans Matthieu 12, versets 46 à 50, ceci. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Dans ce cas précis, Jésus fait bien la différence entre ses demi-frères de sang, donc nés de Marie et Joseph, et de ses disciples présents et à venir, c'est-à-dire nous tous. Puisque Jésus précise, « En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » La Bible nous parle aussi de ses sœurs, mais sans jamais les nommer, ni de préciser combien elles étaient. Être frère et sœur, ou même ou mère impose d'office qu'ils soient unis par le même sang. On est bien d'accord. Donc Jésus était l'aîné d'une famille très nombreuse, ce qui était très courant à l'époque. Et nous savons que Jésus ne fut pas toujours apprécié de la fratrie, comme quoi nul n'est prophète dans son pays ni dans sa famille. Ses frères ne croyaient pas en lui. Révèle l'évangile de Jean 7,5. Et ils s'inquiétèrent. Il est fou, disent-ils dans l'évangile de Marc 3,21. Le jour de la crucifixion, qui était présent? Sa mère, Marie, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, Jean le disciple que Jésus aimait, et Marie de Magdala. Tous les autres avaient peur d'être arrêtés. Et les amis savent très bien vous lâcher lorsque tout tourne mal autour de vous. Donc, Jésus nous considère comme frères et sœurs dès que nous acceptons comme sauveur et maître de nos vies. On est bien d'accord là-dessus. Romains 8. Ainsi donc, frères, nous avons aussi des obligations, mais non envers notre propre nature pour vivre selon ses désirs, Car si nous vivons, si vous vivez selon vos propres natures, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, ô mon Père ». L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jusque-là, la lecture. Le terme « Abba » se trouve dans 3 passages du Nouveau Testament, toujours accompagné du mot « Père ». Marc 14, 36, Romains 8, 15 et Galates 4, 6. « Abba » est la forme araméenne du mot hébreu pour « Père ». « Ab », « A », « B ». Une forme ayant un caractère d'insistance. L'usage de ce mot qui est en fait dans le langage juif peut aussi être employé pour « mon père » ou « notre père ». À l'origine, c'était un mot de balbutiement, tel qu'il pouvait déjà sortir de la bouche des petits-enfants, exprimant ainsi une confiance sans limite en son propre père. Plus tard, il a aussi été utilisé comme formule respectueuse à l'égard des hommes âgés. La fraternité est donc une étape d'unité, un ensemble cohérent, indissociable et heureux entre plusieurs personnes. C'est un sentiment qui dépasse notre ego, qui rassemble plusieurs moi pour en faire un tout, c'est-à-dire un bloc soudé sous un seul Abba Père. Le nous, ici à Blény, c'est donc un ensemble de personnes assemblées, combinées en un seul mouvement, un seul corps. Chaque personne peut vivre et profiter de la valeur fraternelle par l'exercice de l'amour qu'il transmet ou reçoit d'autrui. La notion de fraternité désigne un lien entre les membres d'une même famille, puis d'un ensemble humain. Vous savez tous qu'avec Albert, nous faisons partie tous les deux de groupements folkloriques liégeois. Et là, nous sommes tous amis et unis sous une seule bannière. Un même esprit culturel et folklorique qui est très loin de Christ, il est vrai. Mais cela ne nous empêche pas de nous aimer, de partager avec tous l'amitié, l'amour et la fraternité. À ce propos, je porte un soleil autour du cou, souvent dans nos sorties, et réunions un soleil doré sur lequel il est inscrit en wallon derrière « Jilu pour tout le monde ». En français, « Je louis pour tout le monde ». Vous voyez par là, la notion de lumière du monde de Christ. Mais cela ne ressemble en rien avec ce que je partage avec vous tous. Le Seigneur nous demande de témoigner là où nous sommes placés. Fuir le monde et s'enfermer dans un bunker, c'est désobéir à l'enseignement de Christ. Le contraire de fraternité nous renvoie aux notions de désunion, discorde, l'isolement, l'individualisme, c'est s'associer à des comportements allant à la simple ignorance, à l'inimitié, voire à la guerre. Ici, Jésus nous enseigne qu'en le suivant, nous devenons, par son sang, frères, mères et sœurs. Mais cela implique, bien sûr, des valeurs dont la plus importante, c'est de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Nous sommes par essence même une famille unique, soudée, sous le regard d'Abba Père. Nous faisons un, malgré nos différences physiques, avec ou sans cheveux, jeune ou vieux, malade ou bien portant. Nous nous abreuvons de la même parole. Nous sommes en union avec le corps et le sang de Christ. C'est un privilège que beaucoup ne connaîtront peut-être jamais. Je voudrais témoigner ici tout l'amour que j'ai pour cette communauté et chacun de vous en particulier. Et malgré nos différences, nous avons, grâce à Jésus, trouvé un terrain sur lequel on aime se retrouver, partager, savoir s'aider, s'écouter, en un mot, s'apprécier. Je témoigne de tout mon optimisme pour notre avenir, car notre communauté est bien ancrée dans cet amour fraternel qui fait tant défaut dans les siècles présents. Par Christ, nous sommes donc la lumière du monde et nous devons luire pour le monde. L'amour est le ciment de la société. Regardez un tremblement de terre qui survient dans les villages où la corruption a fait ses ravages. Les maisons s'effondrent. Notre communauté est soudée sur les fondations de Christ. Qui est quoi ? Qui est le roc ? Et elle est prête à assumer des tempêtes, même les plus dures. Je termine par 5 versets, extraits de 2 Timothée 3. Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. N'est-ce pas être loup de la société actuelle ? Ne soyons pas de ceux-là. Et avec la grâce qui nous est offerte, soyons fiers. Nous sommes maintenant une famille appelée enfants de Dieu. Regardons notre avenir avec confiance et surtout détermination. Que l'Éternel nous garde et nous bénisse richement. Amen. Amen. Je propose comme cantique à ma père.
Plus l'habitude de vous écouter. Qu'est-ce que je me réjouissais de vous entendre, j'ai pas l'occasion de me souvenir de ce beau verset. Considérez mes frères supérieurs à moi-même. C'est aussi un verset de la Bible. Quel bonheur de vous écouter, mes chers frères. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur un sujet qui me paraît important, c'est-à-dire la prière. Et presque tous les versets cantiques nous invite à considérer que parler à notre Seigneur et écouter sa voix, c'est aussi des prières. Alors, d'abord une anecdote. Un de mes amis disait, la prière c'est dangereux. C'est dangereux parce que Dieu répond. Dieu répond. Martin Luther, par exemple, disait ceci, J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui qu'il faut que je commence par 3 heures de prière. Qu'est-ce qui peut faire ça? Je vous promets que se mettre à genoux le matin, et en tout cas merci Jean-Luc de nous avoir suggéré le mardi à 7 heures de rejoindre en esprit nos frères et sœurs qui sont en prière, et c'est encourageant, je vous promets. Chaque mardi, quand nous nous mettons à genoux, nous rappelons ce verset de Jacques, « La fervente supplication du juste peut beaucoup. » Pas que je sois juste, mais le Seigneur nous a justifiés. Et c'est dans cet esprit-là que nous pouvons nous approcher de lui, lui offrir toutes ses prières et ses demandes. Alors, d'autant plus dans notre génération, me semble-t-il, il nous faut remarquer cette citation de l'apôtre Paul en Philippiens quand il était en prison. Tous cherchent leurs propres intérêts et non pas ceux de Jésus-Christ. Quel bonheur de pouvoir nous agenouiller au moins une fois par semaine. Ça ne veut pas dire que nous ne prions pas à d'autres moments. On peut prier en toutes circonstances. Et à tout moment, même au volant de voiture, on peut prier notre Seigneur. Mais il y a plusieurs prières qui sont dans la parole de Dieu. Vous pensez bien que c'est un sujet tellement vaste que nous ne pouvons aborder que quelques pensées. Il y a plusieurs exaucements dans la parole de Dieu. Et il y a aussi des prières qui ne sont pas exaucées. Notamment, souvenons-nous de 1 Samuel où Élie, le prophète, à l'époque, on appelait ça un voyant, dit à cette femme, Anne, qui remuait les lèvres et qui avait l'air triste, « Sors de là, c'est le temple de Dieu, va cuver ton vin ailleurs. » Elle répond si aimablement, « Mon Seigneur, c'est parce que mon âme est affligée. Et ce que je demande à Dieu, c'est un fils, puisque je suis stérile, je souhaiterais que l'Éternel me donne un fils, et s'il me l'accorde, je fais la promesse de le prêter à l'Éternel tous les jours de sa vie. » Et Samuel naîtra 1 an plus tard, et ce sera le premier prophète en Israël. Le prophète qui oindra le premier roi en Israël, c'est-à-dire Saül, dont on connaît la désobéissance, et l'Éternel a dû le rejeter. Par contre, l'Éternel nous a dit après, il s'est choisi un roi selon son cœur, et ce fut David. Et nous connaissons l'importance de ce roi en Israël et l'importance qu'il a encore maintenant pour tous les Juifs. Ésaü, nous connaissons son histoire, il a recherché avec larmes la bénédiction qu'il avait méprisée, parce qu'il a vendu ce roi d'Aînès, je vous rappelle des choses que vous connaissez bien, il a vendu ce roi d'Aînès pour un plat de lentilles à son frère Jacob. Et plus tard, il s'est rendu compte que la bénédiction de l'Éternel est une richesse insondable. Et il l'a recherchée avec larmes, nous dit l'Épître aux Hébreux, mais elle ne lui fut pas accordée. Parce que mépriser le don de Dieu, c'est ce qui nous attend. Notre Dieu mesure les vrais désirs de nos cœurs et il répondra généreusement. Mais en son temps, chaque année, des personnes se déplacent dans des foyers à Sion. Et dans les années 60, qui a poursuivi, où ce rôle se présente dans la maison particulière, il y en a qui se promènent dans les montagnes pour toucher seulement une maison bien à l'écart pour apporter notre profit. Désirons ardemment et demandons que tous ceux de nos familles soient sauvés. C'est le désir du Seigneur aussi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et nous pensons qu'il tarde. Le Seigneur ne tarde pas. Il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Cela est mis dans 2 Pierre 3. Et 1 Timothée 2, 4 nous rappelle que notre Dieu Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. C'est notre désir le plus fervent que tous ceux de notre famille nous rejoignent dans une éternité bienheureuse et échappent à un sort terrible qui va bientôt s'abattre sur un monde qui mûrit pour le jugement. Autre chose, prenons garde nos erreurs, nos fautes, celles qui sont non jugées, non confessées, non pardonnées, nous ferment l'accès à Dieu. Venons simplement et humblement à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Et nous savons que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Nos prières instantanées sont pour chacun. Venez à Christ, aujourd'hui. Ayons ce courage de crier à notre Dieu en tout temps. C'est notre rôle à cet égard. L'Esprit Saint accomplira sa mission en son temps. Vous savez que au chapitre 16 de l'Évangile de Jean, il nous a dit que l'Esprit Saint convainc de péché, de justice et de jugement. Quelque chose d'encourageant, c'est de savoir que il semblerait que notre Dieu répande richement sa parole dans notre génération. J'avais un document que j'avais cité à Jean-Luc de la CMM. CMM, c'est une des associations Christ maison en maison, de la plupart peut-être vous connaissez. Il y a plus de 1 million par an de Bible et de Nouveau Testament qui sont distribués par ces amis qui visitent des maisons dans le monde entier, et cela depuis 1960. Et le Seigneur dira, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, et d'arbitre qui ferme l'enceinte, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, disait l'Éternel à son peuple d'autrefois. Toutes ces choses, tous ces versets qui nous sont donnés dans la parole de Dieu ont leur importance, et ça se trouve en Ézéchiel 22, et vous savez que la désobéissance des Juifs a amené combien d'exils, le 4e présentement, et qui dure depuis si longtemps, et qui n'est pas terminé. Nous faisons exception aussi, par la grâce de Dieu, à des moments de guerre comme ceux que connaissent l'Ukraine, par exemple. Mais des demandes nous parviennent de nos frères d'Ukraine. Et récemment, une lettre que j'ai pu avoir, un chef frère ukrainien demande que nous prions pour que l'Éternel arrête le bain de sang dans leur pays. Vous voyez que nous avons de nombreuses demandes à formuler à notre Seigneur et particulièrement aussi à l'égard de l'Église persécutée. Il y a aussi ce qu'on appelle des prières flèches. Pas la peine de faire de grandes prières, pas nécessairement 3 heures de prière comme le faisait Martin Luther. Vous savez, il nous est accordé de pouvoir nous adresser à Dieu comme le fit dans le livre de Néhémie, les chansons du roi, à qui le roi dit « Tiens, tu es triste aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Et ce cher serviteur de Dieu fait ce qu'on appelle une prière flèche. On trouve ça dans le premier chapitre de Néhémie. Parce que c'était tellement dangereux d'être triste devant le roi. C'était interdit, sous peine de mort. Alors, le prophète a fait une prière flèche. Il dit, pourquoi ne serais-je pas triste quand je pense que mon peuple est dispersé. Du reste, il l'était, lui-même. Il dit, Jérusalem a été incendiée et ce sont des ruines qui sont maintenant là-bas. Situation digne de mort, nous disions, pour un serviteur dans cette situation. Zorobabel, et Dieu lui vient en aide, il parle de la situation de Jérusalem dévastée et en ruine. Et pour terminer, je voudrais citer quand même la dédicace du temple de Salomon, où nous trouvons Salomon en prière. Je vous invite à lire le chapitre 8 du premier livre des Rois, du verset 22 au verset 61. Quand Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, c'est une citation que je vous citais en Rois 8, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était à genoux, ses mains étendues vers les cieux, et se tint debout et bénit à haute voix toute la congrégation d'Israël. Une dernière anecdote, un juif qui savait à peine lire et écrire venait au temple, et comme il ne savait pas prier, il récitait tout simplement l'alphabet hébreu. Aleph, Bet, Gimel, etc., jusqu'à les trois dernières lettres de l'alphabet, et demandait à Dieu, Seigneur éternel, formule toi-même les paroles que je dois te dire, puisque tu sais l'état de mon cœur, et je sais que tu m'aimes, et que tu demanderas en faveur de ton peuple ce qu'il convient. On sera toujours vainqueur, on sera toujours triomphant de toutes nos circonstances, de toutes nos épreuves, grâce à cette ressource suprême qui est la prière. Que le Seigneur veuille bénir son Église. Nous chantons, si vous voulez bien, ce beau cantique.
Je m'invite. Et une chose essentielle, à mon avis, dans nos vies, et comme ça l'est dans nos familles, une entreprise ou une église, c'est la vision. Regarder, observer, se diriger, apprécier, aimer, rien ne pourrait être possible si nous ne voyons pas correctement. C'est évident. Si nous n'avons pas une bonne vision, si peut-être nous n'avons pas de vision du tout. Ça s'appelle être aveugle. Et je vous propose un seul verset dans Proverbe 29, 18, version seconde. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Et j'aime bien la version d'Arby. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bien heureux celui qui garde la loi. Vous avez compris que je ne vais pas vous envoyer chez l'ophtalmo. Et ni non plus vous conseiller de changer de lunettes pour voir mieux. Quoique, il faut quand même faire attention à sa santé. C'est évident. Mais c'est de cette vision spirituelle que je voudrais partager avec vous. Pour l'Église, avec un grand E. Pour l'Église, avec un petit E. Pour moi, quelle est ma vision? Où allons-nous? Que voyons-nous? Et notre thème, évidemment... Quel avenir pour notre Église et pour nous en cette nouvelle année académique? Que voyons-nous pour l'avenir de notre Église? Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Il n'est pas question non plus de devenir Madame Irma et de deviner l'avenir. Ça, c'est le ressort de Dieu. Lui connaît toutes choses. On n'a pas besoin de savoir. Je crois qu'on s'inquiéterait encore beaucoup plus si on connaîtrait notre avenir. Mais mettons ici les choses au clair. Une vision, notre vision, la vision spirituelle, peut-être prophétique. Mais dans mon débat, il n'est pas question non plus de ces visions d'extase, d'extravagance, comme il s'est déjà produit dans certaines communautés, où « je vois pour toi ». Le Seigneur m'a dit que... Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais moi... Moi, on me l'a déjà dit. Mais je dis, écoute, garde-le pour toi, et qu'il me le dise à moi-même, et puis je te dirai si c'est bon. Ça n'a pas plu. Enfin, bon, bref. Le Seigneur m'a dit que... Mais Martin Luther King avait une vision. « I have a dream ». Vous savez, traduit en français, ça fait « je fais un rêve ». Et que son discours a été prononcé le 28 août en 63, il voyait les Blancs et les Noirs marchant ensemble, vivant ensemble. Il croyait à l'abolition du racisme. Il avait une vision. Et puis, notre ami Martin Luther, qu'on a déjà cité, le réformateur du XVIe siècle, disait « si la fin du monde était demain, je planterais un arbre ». Il avait une vision. Nous, quelle vision avons-nous pour l'Église, pour notre communauté ? Notre verset « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein ». On fait n'importe quoi, sans direction, sans but, sans révélation. Le peuple fait ce qu'il veut ou fait n'importe quoi. Ou il fait rien. J'ai eu pour illustration le peuple d'Israël dans le désert. Il avait été glorieusement sorti du pays d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il ne voit plus Moïse. Moïse est parti faire une petite balade sur la montagne. Il ne le voit plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Un veau d'or. Il fait n'importe quoi. N'importe quoi. Il a fallu que Moïse redescende et qu'il se fâche. Le peuple est sans frein. Et la suite de notre verset, « Mais bienheureux celui qui garde la loi. » Bienheureux. Notre bonheur est dans la loi de Dieu, dans sa parole, dans la lecture de sa parole. Notre vision doit dépendre de notre Seigneur et non des infos qu'on voit à la TV. Mais quelle est notre vision pour cette année ? Quelle est simplement la vision, peut-être, que Dieu veut nous donner ? Évidemment, si on est plus branché TV que Bible, on n'aura pas la même vision. Et voici ce que déclare encore aujourd'hui notre Seigneur Jésus. Dans Luc 8, 18, voilà ce qu'il nous dit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il veut qu'on voie. « Pour vous renvoyer libres et opprimés, et pour publier une année de grâce. » Une année académique, peut-être, mais c'est quand même une année de grâce. L'année que nous avons devant nous est encore une année de grâce. Alors nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Il nous fait encore grâce de cette année. Nous devons regarder au-delà de nous, au-delà de notre moi, au-delà de notre petite vie. Peut-être que nous nous pensons misérables. Regardons de là. On a un grand Dieu. Et pour exprimer ça, j'entends encore ma grand-mère qui disait « Oh, c'est plus la peine. C'est plus la peine d'acheter une nouvelle robe. C'est plus la peine de renouveler le tapis de la maison. C'est plus la peine. » Quel défaitisme. Elle était hélas comme ça. Évidemment, si nous sommes dans cet état, dans l'Église, de défaitisme, de manque de vision, d'aveuglement, peut-être, nous devons revenir auprès de notre Seigneur pour qu'il nous rende la vue. La vue de ce qu'il voit, lui. Jean, dans l'Apocalypse, disait « Je vois des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Révélation de Dieu. Impossible pour l'homme, mais combien enrichissant pour notre foi. De voir ça. Oh, j'aurais été peut-être content d'être à la place de Jean. À cette époque, persécution. Bon. Et parfois, Jésus doit s'y reprendre à deux fois pour nous guérir. Souvenez de cet aveugle que Jésus a guéri avec sa salive. Il doit s'y reprendre à deux fois. On se dit, tiens, Jésus, il a raté quelque chose. Non, C'est sa manière de faire. Deux fois, il le fera. Et puis, un autre aveugle, il guérira aussi. Avec sa salive, il fera de la boue. Seigneur, c'est pas très propre, quand même. En situation de Covid, en plus. Je sais pas, mais... Non. Parfois, nous sommes tellement durs en nous-mêmes que Jésus doit utiliser des méthodes parfois étranges pour nous ouvrir les yeux, pour nous convaincre qu'il y a encore une vie dans ma vie. Une vie dans la vie d'Église, avec petit e, une vie dans la vie d'Église, avec un grand e. Il y a encore de la vie en Jésus-Christ. Oh, nous nous étonnons parfois des épreuves qui nous tombent dessus ou des coups durs que nous ne pouvons endurer. Peut-être que ça traîne. Peut-être qu'on attend. Mais peut-être que Jésus est en train de fabriquer cette boue qui nous ouvrira les yeux pour que nous ayons une vision saine et pure, pour avancer et grandir dans une vie chrétienne et de vie d'Église. Et pour conclure et terminer, j'aimerais juste vous donner un exemple de l'Ancien Testament que je trouve dans 2 Rois, chapitre 6. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera en un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, mais 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et lui dit « Ne voulez pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» pensait qu'il y avait un corbeau. L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô mon roi, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On lui dit « Voici, il est en Dotham. » Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » L'homme de Dieu répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Ouvre les yeux pour qu'il voie Éternel. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Fin de citation. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous entourent. Suivant comment nous regardons, nous agissons, soit dans la peur, soit dans la foi. Que cette nouvelle année de grâce nous fasse voir comme Dieu voit. Et s'il arrivait peut-être de ne pas trop voir, ou de ne rien voir, ou de ne voir que des ombres, comme des arbres, la prière est d'un grand secours, peut-être certainement aussi le seul remède, mais aussi la lecture ou la relecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je vous invite à chanter la 3e strophe de ce chant, « Qu'il fait bon à ton service ». J'invite mon frère Daniel. Notre frère Jean-Luc nous a demandé de voir, et moi je vais vous demander de marcher. Mais pour marcher, il faut voir. Donc ça va bien ensemble. Et ce que j'ai choisi comme thème, c'est « Marchons de progrès en progrès ». Vous savez que la vie chrétienne, c'est une marche constante, mais qu'il faut progresser dans cette marche. Un peu comme les athlètes qui demandent une chose, c'est toujours progresser, aller plus loin. Et je vais vous citer un texte dans la troisième épître de Jean. Au verset 2, il nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Je désire, en introduisant cette nouvelle année académique, souhaiter pour chacun d'entre nous une santé physique parfaite, afin que nous puissions continuer à marcher et à vaquer à nos occupations. Et je souhaite aussi que notre état spirituel soit aussi en parfaite santé, afin de pouvoir continuer à servir notre Seigneur au sein de cette communauté. L'apôtre Jean s'intéresse à la santé physique des chrétiens qu'il connaît, car être en bonne santé nous permet de travailler et de s'occuper des autres. Et je crois qu'il est bon dans cette communauté, et je sais que l'on le fait quand quelqu'un est malade, on essaie de prendre de ses nouvelles, de téléphoner, de faire une visite, ce que vous faites, ce que nous faisons, et je vous invite ainsi à continuer, peut-être encore à améliorer cette relation d'amour que nous avons les uns pour les autres. Mais il est important pour nous chrétiens aussi que la santé de notre âme soit bonne. Nous devons prendre soin de nos corps et de nos âmes, c'est très important, afin d'être équilibrés dans la foi. Si nous voulons travailler dans le service de Dieu, il est indispensable que notre vie spirituelle soit bien entretenue. Comment servir les autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas en bonne santé spirituelle et si nous avons besoin de soins spirituels? Mais il nous est demandé aussi de prendre soin de nos corps. Bien souvent, le chrétien néglige peut-être son corps. C'est d'abord l'âme, non. Il est important que nous soyons aussi en bonne santé, que nous prenions soin de nous. Car notre corps, comme dit la parole de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Et il est très important que l'Esprit Saint habite un corps sain et bien entretenu. Et je dirais même que c'est un péché, c'est déshonorer Dieu de ne pas prendre soin de notre santé. Car c'est Dieu qui nous a créés, et Dieu veut que nous soyons en bonne santé dans la mesure du possible. Bien entendu, si nous nous soignons et que nous ne guérissons pas, nous n'y pouvons rien, mais nous devons faire tout pour être en bonne santé. Et notre désir pour l'avenir de cette communauté, c'est qu'elle croisse. Oui, en nombre, oui. Et je sais bien que guérit, mais en nombre, mais aussi en qualité. C'est bien d'avoir une grosse assemblée de bonne qualité. Comme il est bon aussi d'avoir une petite communauté de bonne qualité aussi. Parce qu'il y a des petites communautés qui sont de mauvaise qualité aussi. Hein. Soyons clairs. Nous ne pouvons pas demeurer statiques, frères et sœurs, nous reposant sur nos lauriers, sur les acquis du passé. Bien sûr, tout le monde n'est pas appelé à présider, à prêcher, mais chacun pour ça, pour notre part, nous avons une tâche bien particulière au sein de notre communauté que Dieu nous a assigné. Si vous dites « Dieu ne m'a rien donné », détrompez-vous, frères et sœurs. Écoutez ce qu'il peut vous dire, dans quelle direction il peut vous envoyer, ou voyez dans vos talents naturels, parce que nous avons tous des talents naturels. Moi, ce n'est pas le bricolage, je vous rassure, parce qu'on aurait des problèmes ici, mais on a tous des qualités naturelles que nous pouvons mettre aussi à la disposition de Dieu. Comment les utiliser pour son service? Mais prions aussi pour savoir comment Dieu veut nous diriger. Il y a tant à faire pour l'Église, dans les tâches matérielles, dans les tâches financières. C'est vrai que notre trésorier aimerait bien se décharger un jour. Eh bien, peut-être que Dieu nous enverra quelqu'un qui sera un expert comptable, que sais-je. Nous avons aussi le témoignage, aussi en privé, là où nous sommes, la prière, comme notre frère nous l'a dit, et aussi nous avons une grande responsabilité dans tout ce que nous devons faire. Nous négligeons surtout pas. Nous sommes chacun pour notre part
un sujet de bénédiction pour la communauté, ne nous sous-estimons pas surtout. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui se sous-estiment, qui disent « moi je ne suis bon à rien ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dans les Éphésiens, au chapitre 4, il nous est dit « c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Notre communauté est plutôt modeste, mais nous louons le Seigneur pour cette équipe qui, dimanche après dimanche, travaille afin que nos cultes soient variés et enrichissants. Nos différents dons permettent ainsi à la progression de l'Évangile et à l'enrichissement de chacun, permettant ainsi à ce que la doctrine que nous annonçons, que nous apportons, soit inspirée par l'Esprit-Saint. Et alors nous pouvons progresser et nous enraciner dans la vérité. Notre prière est que chacun de nous soit renouvelé dans ses forces. Je veux aussi souligner ici le bon travail accompli pendant le Covid. Une petite équipe avec peu de moyens a pu assurer chaque dimanche des cultes audio. Remercions Dieu pour cela. Ainsi, nous avons pu progresser malgré les temps difficiles. 1 Thessaloniciens 3 nous dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Et 2 Thessaloniciens chapitre 1 nous dit « Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » Et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Pour que notre communauté aille de progrès en progrès, il est nécessaire qu'elle soit remplie de l'amour de Dieu. Amour vis-à-vis de notre Sauveur tout d'abord, bien entendu, et l'amour entre frères et sœurs. Et je bénis le Seigneur, comme ça a été encore dit ce matin, pour la bonne entente qu'il règne parmi nous. Et cela est la clé pour un développement durable d'une communauté comme la nôtre. Une autre clé pour progresser est de ne pas rester statique. Et cet exemple nous est donné par l'apôtre Paul, dont voici le texte dans 1 Corinthiens chapitre 9. « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. » Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pas comme pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après l'avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Courir, voilà à quoi nous sommes appelés. Avancer, travailler à notre salut et au salut d'autrui. Travailler à la sanctification de l'Église, non pas courir dans toutes les directions, mais en étant guidés par sa parole. Nous avançons dans la direction que nous indique le Seigneur. Ainsi, nous n'allons pas à l'aventure et nous ne nous égarons pas. Comme je disais en débutant, nous désirons que notre Église s'accroisse. Notre désir est le suivant, qu'il y ait des conversions au sein de cette Église. Cela est vrai, nous avons fait notre possible. Nous avons distribué des tracts, nous avons fait des réunions spéciales. Eh bien, nous n'avons pas vu de grands résultats, c'est vrai. Mais ne nous décourageons pas, Dieu ne change pas. Comme dans les actes des apôtres, nous voulons croire que des âmes peuvent se donner à Christ. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait, beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Voilà ce que nous est dit dans les Actes des Apôtres. Nous avons un site internet, frères et sœurs. C'est un moyen moderne que Dieu met à notre disposition. Et je veux croire que ce moyen de diffusion de l'Évangile peut atteindre n'importe qui dans le monde entier. Il y a peut-être quelqu'un, ça, ou je ne sais pas si vous avez déjà réagi, mais on peut nous écouter en Australie, en Amérique du Sud. Quelqu'un va sur notre site, il nous écoute partout dans le monde. Et qui sait que par ce moyen que nous avons mis à la disposition du public, une église peut peut-être se construire ailleurs qu'en Belgique. Alors bénissons Dieu pour ce moyen. Prions pour que cet outil attire des âmes au Seigneur. Nous le verrons peut-être dans la gloire, le résultat de ce travail. Et je conclue mon intervention par ces mots, 1 Pierre chapitre 2, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. » Grandir, c'est progresser. Désirons nous nourrir de ce lait spirituel, frères et sœurs, qu'est la parole de Dieu, afin d'avancer toujours plus dans les voies droites. Et je terminerai par la citation de 2 Pierre 3, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Le vœu de notre cœur pour cette nouvelle année académique est le suivant, que l'Église croisse, grandisse, se développe, soit forte et rayonne dans les alentours, et qu'elle soit un phare dans ce monde de ténèbres. Et nous chanterons ce chant « Purifie mon cœur ».
Quel avenir pour notre Église, pour l'Église et pour nous en cette année académique? Voilà une question qui est, nous en conviendrons tous, importante. Elle est également pertinente et mérite certainement d'être posée. Mais cela étant, nous devons reconnaître qu'il nous est quelque part difficile d'y répondre avec justesse. Car parler de l'avenir de notre communauté, et par la même occasion d'une autre, cela signifie que si l'on se réfère à la traduction que nous laisse le dictionnaire Larousse, c'est alors parler de son futur, et c'est prévoir celui-ci. Ce qui m'amène à dire qu'à moins d'être un prophète, nous n'en sommes pas capables, nul n'en est capable. Par contre, ce qui est dans notre pouvoir, à notre mesure, c'est bien sûr pouvoir exposer des souhaits, des projets. Mais faut-il encore se souvenir qu'aussi louables et honorables soient-ils tous ces projets, ils risquent d'être vains si dans leur mise en œuvre, nous oublions, nous négligeons de revenir aux sources de la parole de Dieu, qui est, comme chacun le sait, la boussole et notre guide par excellence en toutes choses. Et c'est pourquoi j'introduirai ma pensée par une très courte phrase consignée sous la plume de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 6, où il fait référence à son ministère et à celui d'Apollos et dira: « Nous avons semé, En quelque sorte, il nous dit là, nous avons travaillé pour le futur. Nous avons voulu aller vers le futur, nous avons semé, mais Dieu a fait croître. Rappelant ainsi d'une part qu'Apollos lui-même n'ont été que des ouvriers avec Dieu, des instruments entre ses mains, et que d'autre part, la croissance et l'avenir d'une église, ce n'est qu'en Dieu seul qu'on les trouve. Dieu a fait croître. Voilà une vérité qui traverse, pour ainsi dire, chacune des pages du livre des Actes, qui, comme chacun le sait, met en lumière l'histoire de l'Église primitive. Aussi, je vous propose, durant quelques instants et très rapidement, de consulter ces quelques pages du livre des Actes. Et de prendre ainsi acte du fait qu'au chapitre 2, au verset 41-46, il est déjà souligné que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église. Non pas de temps en temps, non pas selon son humeur, mais chaque jour. Il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés et que le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes, suite à la toute première prédication de l'apôtre Pierre à l'occasion de la Pentecôte. Mais si l'on continue la lecture de ce livre, nous voyons au chapitre 3 et au verset 32 qu'il est question là de la multitude de ceux qui avaient cru, et que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, est-il ajouté au chapitre 5, verset 14. Le chapitre 6 et les versets 1 et 8, à leur tour, rapportent que le nombre des disciples, et cela a été, je pense, cité tout à l'heure, que le nombre des disciples augmentait à Jérusalem et qu'une grande foule de sacrificateurs, ceux-là même qui ont pourchassé Jésus du début jusqu'à la fin, qui l'ont haï de toute leur force, qui ont tout fait pour le mettre à mort, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Quant au chapitre 8 et au verset 14, là, il y est question des apôtres qui étaient à Jérusalem et qui apprennent que la Samarie, il est maintenant question d'une région, non plus de personnes, mais que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Et au verset 26 de ce même chapitre, il nous est parlé encore de la conversion de l'eunuque éthiopien. Au chapitre 9, nous lisons au verset 31 que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et puis il y en ajoute, et elle s'accroissait, elle grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le chapitre 10, lui, il nous rapporte l'histoire de la conversion de Corneille, que tous nous connaissons, et de sa famille, et de tous ceux qui étaient chez lui et écoutaient le message de Dieu présenté ce jour-là par l'apôtre Pierre. Un peu plus loin, au chapitre 11, c'est d'Antioche qu'il est question cette fois, où un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Tandis que le verset 24 souligne, dans ce même chapitre, non pas un grand nombre, mais une foule assez nombreuse s'était jointe au Seigneur. Et enfin, au chapitre 13 et au verset 48, et j'arrête là l'énumération parce que les textes sont nombreux, il est écrit qu'à Antioche, en Pisidie, les païens, non plus des juifs, mais les païens se réjouissaient et en entendant la bonne nouvelle qui leur venait d'être annoncée, et ils glorifiaient la parole de Dieu. Et c'est une petite parenthèse. Quand vont nous glorifier pour la dernière fois la parole de Dieu? Les païens glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alors oui, Dieu seul fait croître. Alors je ne dois pas me tracasser pour l'avenir de l'Église. Dieu seul fait croître. Oui, lui seul notre Sauveur a bâti et continuera de bâtir son Église. Dès lors, son avenir, son futur, tout comme le nôtre, est entre ses mains. Une pensée qu'il nous faut, me semble-t-il, garder en mémoire et qui devrait nous accompagner, nous encourager tout au long de l'année académique qui est devant nous. Mais à cela, j'aimerais quand même ajouter quelque chose. C'est qu'en lisant et en relisant ces textes que je viens de citer, une pensée très rapidement s'est imposée à moi. Je me suis dit, mais comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il que, autrefois, Dieu ajoutait chaque jour à l'Église, et en grand nombre, ceux qui étaient sauvés, alors qu'aujourd'hui, dans nos pays dits christianisés, les lieux de culte, ils se vident. Les églises se meurent. Et nous sommes en train de parler de l'avenir, parce que nous avons bien sûr des doutes à son sujet. Les lieux de culte ne grandissent pas, ils se vident, malgré tous les efforts qui ont été et sont encore entrepris afin de proclamer, de propager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qu'il nous offre par grâce. Oui, comment cela se fait-il? Dieu ne serait-il plus le même? Aurait-il à ce point changé? Ne serait-il pas en train de se dédire? La réponse, bien sûr, est non. Mais alors, où est le problème? Et que devons-nous faire pour que notre Église, notre petite communauté croisse, qu'elle grandisse en stature spirituelle et en nombre? Et ce que tous, bien sûr, nous aimerions voir. À cette question, chers amis, il n'y a qu'une seule réponse. Nous devons retourner aux sources de la parole de Dieu. Car elle nous enseigne que le jour de la Pentecôte, dont j'ai parlé tout à l'heure, les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu, c'est-à-dire dans la chambre haute qui se trouvait à Jérusalem et où ils se tenaient d'ordinaire, chapitre 2, versets 1 et 13. Et que font-ils dans la chambre haute? Sont-ils en train de se lamenter? Sont-ils en train de faire des grands projets pour l'Église à venir? Que font-ils? Je relis le texte. Et les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu, c'est-à-dire dans la chambre haute qui se trouvait à Jérusalem et où ils se tenaient d'ordinaire. Et ils persévérèrent en un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Voilà ce qu'il s'est passé dès le départ du Christ dans sa gloire. Dès le temps de l'ascension, un jour après, ils étaient déjà en prière. Quoi d'étonnant dès lors que l'Église augmentera par de 3000 hommes ce jour où l'apôtre Pierre se leva pour prêcher. Et ces 3000 hommes, nous le voyons, à leur tour, et il dit au chapitre 2, ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Une persévérance, nous le voyons, que Dieu chaque fois a honorée. Au travers de tous ces textes que nous avons lus, que j'ai cités, chaque fois Dieu a honoré la prière. Relisez ces textes et vous verrez que chaque fois que Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés, il l'a fait parce qu'il a vu des hommes et des femmes qui étaient en prière, qui persévéraient. C'est que malheureusement, il faut le reconnaître dans le repentir. Ce qu'il nous faut reconnaître, que c'est de moins en moins à l'ordre du jour, dans nos communautés chrétiennes. Et nous oublions que la prière est l'un des plus puissants ingrédients qui nourrit la croissance et l'avenir de l'Église de Jésus-Christ. Elle est sa force, cette force qui met en mouvement le bras de la bénédiction de Dieu et nous ouvre toutes grandes les portes de l'avenir de notre Église afin que nous y pénétrions, pour y marcher comme il a été dit, et pour demander à Dieu dans nos prières une vision. Amen. Nous chanterons le cantique 203 sur les ailes de la foi. Merci pour ta parole.